Autobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
من أحسن معنى تصيد وعمر بالقراري براج واجلس فيها وتأيد وخلي العالم تتفرج. ما هو الأول المؤيد والشرح الماشي أعراج؟ هلي عن أصله حيد تعبا للرد بيوصال.
Bonjour Zed Moultaka.
Bonjour.
Alors vous avez publié, est sorti sur le label L'Empreinte Digitale il y a quelques mois, une œuvre intitulée Zajal, qui est un opéra en trois actes. On va parler de cette actualité. Je précise que vous êtes compositeur libanais, mais disons que jusqu'au début des années 90, vous étiez plutôt estampillé pianiste. On va peut-être un peu parler ensuite de cette carrière, de l'évolution de cette carrière. Alors peut-être tout simplement commencer par cet opéra en trois actes qui s'appelle donc Zajal, et peut-être nous dire ce que c'est que le Zajal, qui est une sorte de joute poétique. Alors je vous laisse plutôt nous évoquer est-ce que c'est un style, est-ce que c'est une tradition, comment on définit ça?
Oui, c'est une tradition, disons, de joute oratoire, donc comme vous dites, qui est née, on dit que c'est né au 7e siècle au Liban déjà. Quand il y avait chez les Maronites, c'est ce qu'on disait, les chrétiens d'Orient, qui faisaient des formes de joutes pour élire leur chef, en fait. Il paraît que c'est parti de là. Ensuite, bien sûr, on trouve des origines en Andalousie du XIIe siècle. Et ça s'est perdu à partir de ce moment-là jusqu'au XIXe siècle, où on retrouve au Liban cette forme-là d'une manière extrêmement forte. Et jusqu'à nos jours, où ça s'est perdu un tout petit peu ces dernières années, et apparemment c'est en train de revenir un petit peu à la mode, et c'est effectivement des joutes oratoires qui se passent entre deux poètes, ou plusieurs poètes d'ailleurs.
Comment intervient donc la donnée, j'allais dire, musicale, instrumentale plutôt, puisque ce qu'on précisait, c'est que dans cet opéra en trois actes, on n'entend pas uniquement des voix et des joutes, on entend également des instruments. Donc comment vous avez comment vous avez associé ces deux
En ces fait, deux ça c'était la première question, parce que cette forme-là, en fait, on ne trouve pas d'instruments dans les joutes oratoires traditionnelles. Il y a quelques percussions, généralement des recs, donc des petits tambourins. Et très rarement, de temps en temps, il y a une clarinette, mais généralement, il n'y a pas du tout d'instrument. C'est entièrement vocal, et donc c'est basé sur la poésie et sur des chants, une manière de chanter qui est assez rudimentaire, même si ça peut être très très beau, mais au niveau des intervalles, tout ça, ça peut se jouer sur 3-4 notes, en fait. C'est un petit peu toujours les mêmes tournures mélodiques. Mais j'étais très intéressé par cette forme-là, dans ce qu'elle a d'archaïque, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il y a une forme d'énergie comme ça qui passe à travers le mot et à travers le verbe. Donc je suis parti de là, et il fallait intégrer l'instrumentarium à l'intérieur de ça. Donc la première idée, c'était de partir de l'énergie verbale, de l'énergie, de la musicalité, des rythmiques ou des métriques de la poésie arabe, et de traiter les instruments comme une grande percussion, en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai choisi les instruments avant, avec une percussion à côté, pour arriver à cette forme de percussion un petit peu augmentée.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, avant même que vous initiez tout l'instrumentarium, il y avait un aspect déjà opéra dans cette forme, dans le Zajal?
En fait, je réfléchis depuis des années sur l'opéra, sur l'espace de l'opéra, dans le sens d'un espace de représentation où, comme tout le monde sait, il y a plusieurs formes de artistiques ou de plusieurs médiums. Et j'ai eu envie de réfléchir sur l'opéra en repartant d'un point qu'on peut appeler peut-être le point zéro pour moi, c'est-à-dire de se dire que pourrait être aujourd'hui, comment peut s'enraciner aujourd'hui un opéra de langue arabe. La première idée qui me soit venue, c'était le conteur, c'est-à-dire on a un personnage qui est qui tient tout, qui tient tout l'imaginaire. Et qui va raconter une histoire. Il n'y a aucun décor, il n'y a rien. C'est un peu le degré zéro ou le degré un. Et en fait, c'est en racontant l'histoire que chacun dans l'audience va construire son propre imaginaire et son propre décor. Je suis parti de cette idée-là. À partir de là, j'ai commencé à construire petit à petit pour essayer d'arriver à un espace où... qui soit efficace au niveau de la scénographie et qui ait le moins d'artifices possible. Et je trouvais dans la forme de Zajal, qui en fait est une forme où, quand on regarde le Zajal traditionnel, c'est une table derrière laquelle il y a plusieurs poètes. Et ça peut durer 4 heures comme ça. C'est extrêmement statique. Et en même temps, tout se passe justement dans le mot et dans la manière d'habiter tout ça. Et j'ai vu, par exemple, des ajals traditionnels où les poètes arrivent même au ce qu'on appelle le tarab ou le duende, un peu espèce de... Ils sont complètement habités. Il y a quelque chose qui se passe et on n'a pas besoin d'autre chose que de ça. Donc je suis parti un petit peu avec ces idées pour construire cet opéra en 3 actes.
Est-ce qu'il y avait un piège ou une difficulté par rapport justement à la manière dont il fallait immiscer l'instrumentation, le poids que ça allait avoir et comment tout ça allait donner une sorte de passe-au-double entre, j'allais dire, le verbe et les instruments ?
Tout à fait, parce qu'en plus, j'ai choisi une fanfare, ce qui veut dire qu'au niveau des décibels, c'est assez, assez fort, surtout que dans cet opéra-là, il y a un personnage, en plus, qui est pris en charge par une contralto. Et c'est la seule chanteuse qui soit sur scène. Elle joue avec un comédien, mais lui qui est sur un écran. Et donc elle se retrouve toute seule entourée de tuba, trombone, trompette, etc. Et c'était assez difficile de trouver justement au niveau des équilibres pour que ça n'envahisse pas trop. Au niveau de l'écriture, j'ai eu pas mal de pièges.
Est-ce qu'il y avait aussi, vous avez parlé tout à l'heure de potentiel trans parfois, enfin quasiment trans, qui pouvait donc une part d'improvisation peut-être, j'imagine, dans le Zajal ou...
Dans le Zajal traditionnel, c'est entièrement improvisé.
Donc justement dans une sorte de carcan aussi presque rigide, on pourrait dire que l'opéra, avec des actes, etc., des textes précis, on intègre cette donnée d'improvisation et de liberté.
En fait, c'est un peu contradictoire. Mon attitude est un peu contradictoire parce que je suis parti de quelque chose d'entièrement, complètement improvisé, même au niveau de la poésie et des joutes elles-mêmes. C'est extrêmement, complètement improvisé. En même temps, c'était étrange parce que j'avais entendu parler d'une histoire, donc de cette histoire qui est devenue le livret pour cet opéra, qui a eu lieu au début du siècle dernier, donc au début du XXe siècle. J'ai entendu parler de cette histoire comme une des histoires les plus extraordinaires du Zajal libanais depuis le XVIIIe, XIXe. Et un beau jour, je tombe sur un livre dans lequel toute la soirée est annotée. Donc j'ai retrouvé le livret, je me suis dit, c'est curieux, en même temps c'est entièrement improvisé, en même temps on avait tout là. Donc...
Le scénario original presque.
Voilà, donc je me suis renseigné, on dit c'est entièrement improvisé, mais ils étaient tellement géniaux qu'ils avaient la possibilité, la capacité de retranscrire. Voilà. C'était pour moi un grand bonheur de retrouver ça. Je me suis dit, je vais repartir de là, mais je vais pas laisser de part d'improvisation. En fait, j'ai créé une fausse sensation de liberté, parce que dans l'opéra, dans le premier acte, par exemple, il y a quelqu'un, le jouteur, donc qui défie le jeune, enfin qui est en face du jeune, qui est avec nous sur scène. Il est donc sur un écran Et en même temps, il réagit vraiment à la seconde. C'est-à-dire que quand le jeune homme qui est sur scène, donc qui est incarné par Fadia Tombelhache, qui est donc une chanteuse, une contralto, à chaque fois qu'elle termine de dire quelque chose, lui qui est derrière elle, donc sur l'écran, il va réagir tout de suite. Et ça se passe à la seconde près. Donc en fait, j'ai construit quelque chose de faussement réel. C'est pour ça que ça a été très. Il y a beaucoup de contraintes pour les musiciens, surtout pour le chef, parce que il a un clic dans l'oreille, parce que tout est extrêmement à la seconde près. Et j'ai eu envie de fausser un tout petit peu la perception. C'est-à-dire, on a l'impression que il y a des gens qui me demandaient, mais il est là, il est caché derrière, et tout l'opéra se passe comme ça jusqu'à la fin où il y a une espèce de tout devient factice, parce que dans la salle, les gens applaudissent, rigolent, mais en fait, c'est par des haut-parleurs, c'est des applaudissements, des éclats de rire, tout ça qui explose dans la salle. Et en fait, c'était un petit peu pour dire qu'on rit à nos places, on applaudit à nos places. La réalité qu'on nous montre n'est pas forcément toujours celle qu'on croit. Et on se retrouve avec un espace, on croit que c'est improvisé, mais tout est extrêmement écrit.
ردت لبناها محروف العاطل عاطل اشقع من دماغ مبناها نقطة فيها مش قايل حتى ولو هجيناها هات ان كان عندك قابل ولا تجعل ظني بطال
حد وحصر رهن وصول وحد الدول وصور حد صور حد وحد الدول وحط حدود ودور ورد لو درس رص تقول الهول وحل رسوب وصوصت حر الروح وحل الدول وصح وذهر وحول
خايد بحر الفصاحة سر شمالك يمينك وغايص بالفن سباحة وعم تسحرنا بتفنينك سبع وبيضت الساحة تحيا بصحايف دينك حط الدف وخد راحة من ذم الشاطر يقتل
Cette forme justement très, très écrite, comme vous le dites, c'est quelque chose que vous aviez à l'esprit à l'origine de ce projet ou c'est venu progressivement en travaillant sur comment vous emparer justement du Zajal et savoir comment dans votre démarche musicale, artistique, vous alliez justement créer quelque chose et au final un opéra. Ou est-ce que finalement c'est venu petit à petit
En fait, dès 2002, donc il y a 8 ans à peu près, j'ai senti... un potentiel dans cette forme-là et je savais que j'avais envie de réfléchir à cet endroit-là. Donc j'ai commencé...
Votre réflexion date...
La réflexion qui date depuis quand même plusieurs années. Et donc c'était en 2002 où je suis tombé, peut-être même avant, je ne me rappelle plus très bien, où je suis tombé sur ce texte-là justement. Et je me dis, tiens, le livret est là. Et j'avais plein d'idées et les choses, en fait, au départ, c'était pas du tout... La forme de cet opéra-là n'était pas comme elle est aujourd'hui. Ouais. Donc, en fait, elle a beaucoup évolué jusqu'à sa forme d'aujourd'hui.
Justement, par rapport à l'aspect visuel, vous avez parlé, puisque effectivement, donc, c'est un disque, enfin, on peut le télécharger sur cause, mais c'était aussi également, il y a un DVD qui est sorti, donc il y a un aspect, les deux pour vous étaient, bon évidemment c'est un opéra donc on imagine des images, est-ce que vous avez également visualisé tout de suite au départ de votre réflexion cela, c'est-à-dire c'était pas uniquement juste une sorte de de mélange de sons, qu'ils soient de la voix ou d'instruments. Est-ce qu'il y avait aussi également cet aspect visuel qui était pour vous une évidence?
En fait, c'était très évident depuis le début. Ça s'est construit vraiment en même temps. C'est pour ça que finalement, je n'ai pas fait appel à un metteur en scène dans le sens traditionnel. Parce que, en fait, les images, les images et la mise en place est venue vraiment en écrivant la musique. Il y avait quelque chose de complètement imbriqué dans la représentation visuelle et dans la représentation auditive. Donc il y a quelque chose qui s'est construit vraiment complètement ensemble et d'une manière évidente.
Alors toujours dans ces rencontres, c'est, j'allais dire, à travers les siècles, à travers les continents, il y a un peu une sorte de, comme ça, de... ça va un peu dans tous les sens. Il y a donc ces mots qui peuvent paraître donc très, très anciens, cette tradition qui est très ancienne, comme vous l'avez décrite, et au niveau de l'instrumentation, quelque chose qui est assez ancré dans le XXe siècle, enfin, on pourrait même dire dans le troisième millénaire, puisqu'on est en 2011 déjà. Et si vous avez commencé à cogiter en 2002, donc on était déjà dans le troisième millénaire, le XXe siècle, c'est déjà très ancien.
Je ne me pose pas trop de questions par rapport à la... C'est-à-dire, je n'aime pas trop la posture de dire, tiens, c'est en arabe, donc il faut que ça soit des instruments peut-être traditionnels, etc. Même si je me pose beaucoup de questions à l'endroit des instruments traditionnels, comme d'ailleurs à l'endroit des instruments baroques, à cause du tempérament, tout ça. Puis j'ai fait plusieurs expérimentations dans le cadre, par exemple, d'une résidence que j'ai faite à Royaumont. Mais j'ai pas envie que ça devienne une posture. Donc en fait, j'avais besoin d'une énergie au niveau instrumental, et c'était une énergie que j'entendais dans les cuivres, dans les tubas, dans les trombones, j'avais besoin de cette énergie-là. En plus, je savais que c'était des instruments qui peuvent tout à fait être détempérés, dans le sens où on peut faire des quarts de ton avec, etc. Et ça s'approchait de souvenirs que j'ai avec des fanfares, justement, que j'entendais dans la montagne quand j'étais petit, ou des choses comme ça. Et pareil, l'instrumentarium s'est imposé aussi. Et puis il y a quelque chose qui est très important, c'est la dynamique qu'on a avec les musiciens. Là, en l'occurrence, Ars Nova, avec qui je travaille depuis des années. Et c'est très important d'écrire pour des gens aussi qu'on connaît, des gens avec qui on a partagé des choses, avec qui on a évolué. Et c'est aussi important.
Quelle valeur vous donnez à l'opéra en 2011? Qu'est-ce que ça veut dire, l'opéra en 2011? Qu'est-ce que c'est en général? Et peut-être, votre réponse, on pourrait dire, c'est en particulier peut-être cette œuvre, parce que c'est intitulé Opéra en trois actes. Qu'est-ce que...
C'est ça, c'est la question. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi l'opéra? C'est un endroit où peuvent cohabiter plusieurs formes d'expression. Et en même temps, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais là, je parle d'une expérience intime. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai l'impression que les éléments sont... C'est-à-dire, ils sont collés ensemble, mais... En fait, j'avais envie de réfléchir sur un espace où chaque élément reste... à l'endroit où il est. Par exemple, là, dans le cas de cette œuvre-là, le comédien, il est comédien, il ne chante pas. La chanteuse, elle ne joue pas la comédie d'une manière outrancière. Les musiciens, ils ne vont pas aller se balader ou bien faire ceux qui font semblant que... C'est-à-dire que chaque élément, chacun fait ce qu'il sait faire. Et les choses sont construites ensemble. Et bon, voilà.
Ça veut dire que vous avanciez entre d'un côté l'oralité de la musique arabe, enfin cette tradition d'oralité, et de l'autre côté ce qu'on attend de la définition classique qu'on donne de l'opéra. C'était une manière d'avancer entre les deux frontières.
Oui, c'était une manière aussi de ce qui est visuel et visuel. Et même plastique, par exemple, le deuxième acte, il est assez plastique parce qu'il y a un petit écran qui vient au milieu. Il y a une forme d'image de rituel, parce que les musiciens sont dos au public avec des petites lanternes. Donc on a l'impression qu'il y a une communauté qui se crée. Donc c'est en fait, c'est des tableaux, c'est trois tableaux qui sont là, qui sont dans leur... on peut trouver ça statique, mais c'est un choix. C'est un tableau qui est posé avec sa plasticité, son côté visuel, et qui ne bouge pas, en quelque sorte. Et donc, j'ai choisi ce chemin-là. C'est-à-dire le visuel, il est placé là. La chanteuse, elle est là, elle chante. Les musiciens jouent leur partie. Il y a un comédien, lui, il joue en tant que comédien. Et il y a pas enfin, j'essaie d'éviter l'artifice, en fait, en quelque sorte.
Parcours dans votre même éducation musicale, vous savez comment, quelle place vous avez donné à l'opéra progressivement tout au long de vos parcours, c'est-à-dire l'opéra en général, on pourrait dire, pas, est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours accompagné, est-ce que vous y êtes venu à un certain moment, comment ça s'est déroulé, même en tant que, j'allais dire, que simple mélomane, auditeur, et peut-être ensuite en tant que musicien et compositeur.
En fait, moi, j'ai toujours eu un problème avec l'opéra.
C'est votre réponse.
J'ai été beaucoup à l'opéra, puis à chaque fois je sortais avec quelque chose de sentiment vraiment très bizarre avec cette forme.
Tous les compositeurs vous dérangeaient, ou il y en avait plus que d'autres, ou c'était la forme elle-même,
okay. C'était la forme, c'était pas de point de vue musical, bien sûr, parce qu'il y a des pages absolument magnifiques, bien sûr. Mais c'est au niveau de ce que je vivais pendant 3 heures ou 4 heures, et il y avait quelque chose qui me gênait. Par exemple, quand je voyais un chanteur chanter et jouer la comédie, et en même temps, toutes les 2 secondes, regarder le chef, il y avait tout de suite, ça me faisait sortir. J'arrivais pas à croire, en fait, à rentrer dans le. Il y avait toujours je sentais toujours un malaise, en fait, une gêne, oui.
C'est votre réponse, finalement, d'avoir écrit ça. C'était votre d'essayer de.
C'est.
C'était pas une thérapie.
Mais... Oui, j'ai règle des choses avec moi-même, bien sûr, de toute façon. Non, c'est intéressant. C'est-à-dire, en fait, moi j'aime bien les choses qui me dérangent. Je trouve ça très intéressant de les questionner, de dire pourquoi ça dérange, qu'est-ce qui, pourquoi j'arrive pas à accepter telle chose. Donc. Pour essayer de trouver une réponse, il n'y a pas mieux que de s'y mettre soi-même pour réfléchir et voir qu'est-ce qui... Peut-être en écrivant 2 ou 3 opéras, je vais revenir à l'opéra et dire voilà, c'est là que ça se passe.
Donc votre parcours a été assez... pour en arriver, j'allais dire, à là, aujourd'hui, vous avez commencé par l'étude du piano, vous êtes né à Beyrouth, vous avez grandi à Beyrouth. Une période, on peut dire, assez trouble, tourmentée, pour ne pas dire plus. Vous êtes arrivé ensuite à Paris, vous avez fait le conservatoire. Le début, le piano, c'était un choix personnel. C'était comme certains enfants, on les met devant un piano, on leur dit tu vas étudier le piano. Comment ça a commencé tout ça?
Alors, il paraît que, en fait.
Selon la légende.
Voilà. En fait, bon, on avait un piano à la maison, comme toute bonne famille qui se respecte, voilà. Et mon frère avait commencé à faire du piano, enfin, lui, il a 7 ans de plus que moi. Et il paraît que j'avais 5 ans à l'époque, donc je passais mon temps à côté de lui quand il prenait les cours. Et puis je regardais pendant une heure, je restais là, je ne bougeais pas. Et c'est le prof qui dit en fait, à mes parents, en fait c'est lui là, qui va peut-être faire quelque chose. Donc on m'a vite mis au piano, mais il paraît que c'était une catastrophe parce que je ne travaillais pas du tout. Mais voilà, ça a commencé comme ça.
Et vos premiers souvenirs, vos premiers émois musicaux, c'était quelle sonorité, quel type de musique, qu'est-ce qui...
En fait, j'ai commencé à écrire de la musique très 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 tôt, c'est-à-dire ça date justement de peut-être j'avais 6 ans, quelque chose comme ça. En fait, donc la guerre a éclaté à ce moment-là et je passais mon temps au piano, mais pas pour étudier le piano, mais pour inventer des choses, des sons, etc. Je savais pas écrire en fait les partitions à ce moment-là. Donc j'étais dans un rapport à l'oralité qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que j'inventais des morceaux au piano, mais que je finissais par apprendre par cœur et de les rejouer comme ça. Donc, et les premiers souvenirs, c'est j'essayais de refaire au piano les sonorités que j'entendais à l'extérieur, c'est-à-dire les bombardements et les et donc je travaillais beaucoup entre les aigus et les graves du clavier.
Comment, entre ces sonorités de bombardement, arrivaient des sonorités un petit peu plus musicales? Est-ce qu'il y avait, c'était la radio, c'était des disques, je ne sais pas, que vos parents avaient? Comment ça? Et quel type de musique arrivait justement au milieu de tout ça?
En fait, j'étais baigné dans plusieurs choses en même temps. Il y avait effectivement mes parents qui avaient beaucoup de disques, surtout de musique classique, occidentale. Donc j'entendais du Mozart, du Beethoven, du Bach, tout le répertoire classique. Et en même temps, à travers la radio, la télévision, souvent dans la rue, j'étais aussi imprégné par toute la musique arabe. Populaire. Voilà.
Donc l'arrivée à Paris, le conservatoire... à ce moment-là, comment ça se passait? Vous étiez dans une sorte de flot d'apprentissage, ou vous aviez déjà dans votre tête, c'était assez clair par rapport à ce que vous vouliez faire, par rapport à votre rapport et à la musique en général, et même à cet instrument que vous aviez choisi, qui était le piano?
En fait, c'était assez clair ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte plus tard que ce n'était pas du tout ça, en fait. Parce que je suis arrivé à Paris en me disant, je veux faire du piano. J'avais travaillé et étudié le piano au Liban avec Madeleine Medawar, qui était mon professeur là-bas, elle m'a repris en fait, j'avais 11-12 ans, parce qu'entre 5 ans et 12 ans, c'était la guerre, donc j'avais arrêté, mais je continuais moi quand même à travailler le piano tout seul, puis à écrire, à jouer, tout ça. Et à 12 ans, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien... refaire le piano. Donc, quand elle m'a écouté, elle a dit à mes parents, il faut absolument qu'ils partent en France dès que vous pouvez. Donc, je suis venu quelques années plus tard et j'ai préparé le conservatoire de Paris dans l'idée de rentrer au conservatoire et de faire le cursus.
Comment justement, quand on est musicalement, on est du verbe naître, dans une période aussi douloureuse et violente qu'une guerre? Vous avez dit quand même que vos premières compositions finalement étaient nées de bombardements. Mmh. Et finalement on se retrouve en un claquement de doigts transposé dans un univers un petit peu plus pacifique à Paris, où là évidemment on va se retrouver face à des gens qui eux apprennent la musique et évoluent dans un contexte un peu plus apaisé et paisible. Donc comment s'est passée justement cette partie-là? Est-ce que ça a été un traumatisme, au-delà évidemment, j'imagine, de quitter votre terre natale, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu même un traumatisme musical, j'allais dire, ou artistique?
Ça a été très dur parce que j'arrivais avec un bagage qui n'était pas assez fort. Je me suis retrouvé dans un milieu où les gens de mon âge avaient fait la musique depuis tout petit aussi. Sauf que moi, j'ai eu une période de coupure très, très, très grande. Et je sentais qu'il y a tout un cheminement que je n'avais pas eu. Donc au début, ça a été vécu comme presque comme un complexe. Je me sentais mal là-dedans, mais bon, J'ai beaucoup travaillé, je suis rentré au conservatoire, je ne pensais pas pouvoir réussir le concours. Enfin, petit à petit, les choses quand même se sont faites, mais avec toujours ce sentiment que il y a quelque chose qui a manqué pendant plusieurs années. Jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre que les choses qui sont négatives, ou qui sont le manque, en quelque sorte, les choses qui nous manquent, peuvent devenir un outil extrêmement dynamique, dont j'ai commencé à travailler dans ce sens.
Quel rôle ont joué à ce moment-là, j'imagine, tous les enseignants, les personnalités que vous avez croisées, que je ne sais pas, que ce soit Pierre Sancan ou Le Ciccolini, ou, enfin, c'est toutes ces personnalités-là, comment ça...
Ben, c'était, bien sûr, pour moi, c'était une chance incroyable de rencontrer des gens de cette taille-là, surtout en fait leur rapport à la musique, c'est-à-dire dans un rapport plutôt de liberté et de... ils ouvraient des espaces, c'est-à-dire en même temps je sentais qu'il y avait un problème, que j'étais pas tout à fait à l'endroit où j'étais.
Comment ils vous percevaient justement, parce qu'ils avaient finalement en face d'eux, pour vous c'était différent, mais j'allais dire pour eux, ils avaient en face d'eux quelqu'un qui n'avait pas commencé le piano en conservatoire depuis l'âge de 4-5 ans, ils avaient quelqu'un qui avait effectivement ce bagage un peu différent, comme vous disiez, d'avoir entendu des musiques arabes populaires ou autres, etc. Est-ce que c'était accepté, comment c'était perçu?
Ça par rapport au bagage de tout ce qui est la culture arabe, c'était... pas du tout présent, pas du tout. D'ailleurs, même moi, à l'époque, je refoulais complètement cette partie-là. Pour moi, c'était la musique occidentale.
Voilà, je suis là pour étudier le...
Voilà, j'avais complètement refoulé ça. Maintenant, je me rappelle, je suis arrivé chez Marie-Madeleine Petit, donc, qui était l'assistante de Sancan. Et donc, j'ai joué, et à un moment donné, le téléphone sonne, dit « Allô, Pierre ». Donc, c'était Pierre Sancan qui l'appelait. Et elle lui dit, écoute, j'ai un compatriote d'Abdelrahman El-Bacha, il est super, mais il ne sait rien. Donc, je te l'amène, il faut que tu le prennes en main. Et donc, à partir de là, ils m'ont pris en main, surtout elle. Et puis, Pierre Sancan, je le voyais une fois par mois. Ils ont été vraiment, c'était très... ils m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé pour essayer de rattraper tout le retard.
Est-ce que donc progressivement vous disiez je rejetais ou je zappais complètement tout ce que ma culture passée, j'étais vraiment à fond dans finalement l'apprentissage classique du classique et du piano classique. Est-ce que il y a eu un moment, j'imagine quand même, dans ce parcours-là où il y a une volonté d'essayer de faire revenir des choses, c'est venu progressivement, ça s'est fait, il y a eu une sorte de choc thermique tout à coup, comment ça?
En fait, il y avait quelque chose que je vivais d'une manière un peu douloureuse et curieuse même. Je sentais un décalage entre quand j'ai commencé surtout à donner des concerts et tout ça, entre le travail de pianiste donc que je faisais et puis la violence, donc la violence qui était encore là et qui est d'ailleurs là. Et je me disais, mais avec quel outil je travaille et comment je peux. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans mon outil. J'avais besoin de.
Vous avez l'impression de sonner faux, d'une certaine manière
ou... Oui, oui. J'avais besoin de pouvoir exprimer des choses qui me sont douloureuses par rapport au monde dans lequel je vis. Et je sentais un décalage entre. Par exemple, entre les sonates de Schubert ou les sonates de Chopin et les. Enfin. Je sais pas comment dire. J'avais besoin d'avoir un outil avec lequel je puisse exprimer mon époque et mon. Il y avait ce sentiment-là. Et en fait, petit à petit, l'écriture est revenue.
Ce que j'allais vous demander, parce que vous avez parlé de quand vous avez évoqué vos premiers émois et vos premiers souvenirs, vous avez tout de suite mis sur la table la composition. Vous avez dit, je composais des petites pièces tout de suite, rapidement. Donc, comment finalement, dès que vous êtes arrivé à Paris ou à première vue, dans tout ce qui a été mis de côté, j'imagine que l'aspect composition était mis de côté, ou vous, quand vous étiez chez vous, vous continuiez à griffonner sur des partitions ou à avoir quelques idées ou non?
En fait, non. J'ai complètement arrêté parce que je travaillais beaucoup mon piano. J'avais des jours où je faisais 10 heures par jour. Donc, il n'y avait plus vraiment de place. Mais il y avait des moments quand même quand il y avait, par exemple, quand la guerre repartait au Liban et mes parents qui étaient là-bas, tout ça. Donc, il y avait des moments très, très difficiles. Je me sentais même... presque un peu, j'avais un sentiment de culpabilité d'être moi là, vivant à Paris, alors que ma sœur, par exemple, était à Beyrouth, sous les bombardements, tout ça. Et c'était des moments où je ne pouvais plus travailler le piano, et je revenais naturellement vers l'écriture. Donc il y a eu des moments quand même où j'écrivais des petites choses comme ça. Mais ce n'était pas très sérieux dans le sens où il n'y avait pas un vrai travail, un vrai suivi. J'étais quand même dans le piano. Mais il y avait cette chose qui, de temps en temps, vers l'écriture, qui revenait. Et en fait, petit à petit, c'est revenu de plus en plus fort. Et je quittais de plus en plus le monde du piano, tout ça. Parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me convenait pas tout à fait à cet endroit-là. En fait, je commençais à comprendre... que c'est pas par hasard que j'avais commencé à écrire très 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 jeune, qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là.
Donc au début des années 90, là vous avez vous êtes dirigé un peu plus vers cet aspect de composition pour arrêter quasiment votre...
Oui, mais ça s'est fait sur plusieurs années et avec très douloureusement, parce que au début je savais pas si c'était une fuite ou si je fuyais le piano, ou est-ce qu'il y avait une réelle... Enfin, je me posais des questions par rapport à l'écriture. Je me disais, mais est-ce que je suis capable déjà de ça? Et est-ce que c'est vrai, ce désir-là? Et en même temps, j'avais pas le choix. Donc, c'était un moment difficile parce que tout le monde disait mais c'est pas possible, comment il a passé des années et des années à faire le conservatoire, il a eu son prix, il donne des concerts, comment il laisse tout tomber comme ça? Quand j'allais donner des concerts au Liban, j'étais au Liban le pianiste, faisais partie des pianistes importants là-bas, tout ça, et ça a été très très dur de changer comme ça.
Changer de braquet. Puis est-ce que vous avez dit que ça s'est fait progressivement, mais est-ce qu'il y a quand même eu... est-ce que c'est tout ce que vous venez de décrire, finalement, c'est une sorte de... tous ces satellites différents, la perception au Liban, qu'on avait de vous, ce que vous pensiez, tout ce qui vous manquait, ça s'est fait progressivement, ou il y a vraiment eu une sorte de déclic qui vous a fait vous installer vraiment devant une partition, d'endosser votre manteau de compositeur et de tracer la route dans cette direction?
En fait, ça s'est fait au début progressivement, parce que c'était pas une décision rationnelle, c'était pas maintenant j'arrête ça, je commence ça. C'était vraiment, je laissais les choses presque agir à l'intérieur de moi et d'avancer avec toutes ces contradictions et toutes ces choses. Tout était complètement flou, je voyais plus rien, je comprenais plus rien. Et en fait, j'ai poussé cette chose-là jusqu'au sentiment de perte, dans le sens d'accepter finalement de peut-être que je vais arrêter la musique. Et d'ailleurs, je suis arrivé à un moment où j'étais persuadé que c'était fini la musique, que pour moi c'était absolument terminé. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai accepté cette chose-là et l'angoisse de cette chose-là, que il y a eu des petites lueurs qui sont revenues par le biais de l'écriture pour le théâtre. J'ai fait pas mal de musique pour le théâtre, un petit peu pour le cinéma aussi. Donc je suis revenu vers cet espace-là.
C'était des cannes, des supports, le fait justement d'avoir une musique sur un support visuel ou une... Ça
oui,
vous a
oui,
aidé à...
Voilà, puis c'était des petites choses, donc je pouvais expérimenter aussi des choses.
Et à un moment est-ce que c'était aussi lié à des rencontres, parce que j'allais dire, dans tout le parcours que vous avez décrit, on sent un côté un peu solitaire, un peu la sorte de Lucky Luke de la musique, qui, sans soit son rapport avec son instrument, avec le déracinement, l'apprentissage du piano pour la carrière de concertiste classique, tout ça, à quel moment intervient le partage de la musique, comment intervient tout cela, et même j'allais dire, même également... Quel mélomane vous étiez pendant tout ce parcours que vous avez intense que vous venez de décrire? Est-ce que les musiques qui se faisaient autour de vous, de votre temps, vous touchaient, vous interpellaient, agissaient aussi justement sur votre réflexion?
En fait, j'écoutais essentiellement la musique classique. Au conservatoire, on n'était pas très ouvert. Par exemple, dans le parcours, on n'entendait pas vraiment de musique contemporaine. Et d'ailleurs, c'était quelque chose pour moi où je disais oui, j'étais assez réfractaire. Sauf un des cours avec Marie-Françoise Buquet qui, de temps en temps, elle avait cette ouverture-là. Donc, par exemple, j'ai pu rencontrer Kurtag dans un de ses cours. Ça a été une rencontre importante parce qu'on avait joué Léa Técoc. Et je me suis dit, tiens, il y a des choses qui sont proches des sonorités que je connaissais du canoun, par exemple, parce que bon, lui, c'est le cymbalum, bien sûr, et qui est assez proche du canoun, de l'instrument. Et déjà, ça commençait un tout petit peu à ouvrir des choses comme ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose avec Léa Técoc qui était assez important. Quand j'ai eu la crise, parce qu'à un moment donné, bon, donc la crise s'est préparée par rapport au piano, ça s'est passé, en fait, il y a eu quand même un moment, je vous disais tout à l'heure que non, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un choc un jour, c'est que j'ai donné un concert et j'étais tellement mal, c'était horrible. Intérieurement, j'étais très 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 mal et en sortant de là, j'étais mal d'être mal parce que je me disais mais... Tu as eu la possibilité de quitter le Liban alors qu'il y a des gens qui n'ont pas pu le faire, d'étudier, de rentrer au conservatoire, de travailler avec des gens fabuleux, d'être demandé pour donner des concerts, d'enregistrer. J'avais enregistré un double disque Schubert aux éditions Style. Enfin, tout m'a été donné, en fait. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Et je me dis, mais tu es là, tu donnes un concert et tu es dans cet état... C'est pas possible. Et c'est là où je me dis, non, il y a un problème, il faut arrêter. Et en fait, inconsciemment, je détruisais aussi. C'est-à-dire que je travaillais pas assez bien, donc j'arrivais pas tout à fait prêt, donc ça créait encore plus de malaise, etc. Et à un moment, j'ai dit, maintenant, stop. Et curieusement, quand je suis revenu donc vers la musique à travers l'écriture et tout, j'ai dit, mais il y a d'autres musiques que ce que j'entendais. Mais la musique arabe, elle en est où avec tout ça? Et puis je me suis rendu compte un jour que je chantais un quart de ton. Donc j'ai appelé un ami compositeur, je lui ai dit, écoute, tu peux chanter, chante-moi ce que je te chante. Et il me chantait ça, mais c'était des demi-tons. Je lui ai dit, mais non, c'était un demi-ton. Je lui ai dit, je chante pas un quart de ton. Et tout à coup, je me dis, mais il y a toute une dimension culturelle en moi qui... Et puis je passe à côté de tout ça. Donc là, j'ai eu une envie, une espèce de... comme si...
Vous avez basculé finalement d'une sorte de malaise à une libération,
voilà,
un peu comme ça.
Je commençais à écouter plein de choses, de musique.
C'était à quelle époque, en quelle année à peu près?
Ça devait être dans les années 97, par là, autour de 95.
Qu'est-ce que justement, tout à coup, ce trop-plein de liberté mentale et... a été facile à canaliser pour savoir, ok, concrètement, je veux composer, je veux comment faire le tri dans ma tête, comment tout ça s'est agencé progressivement? Facilement ou vous avez dû travailler?
En fait, j'ai senti quelque chose qui me poussait à l'intérieur de moi, une espèce d'évidence. comme s'il y avait un chemin, c'était évident, c'était celui-là. Ça a commencé par... j'ai eu la chance d'être demandé au Festival de Balbec pour une pièce pour orchestre et bon, que je ne mets pas au répertoire parce que je ne l'assume pas aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait un désir, mais absolument, absolument, d'une force inouïe. Je commençais à écrire, j'avais l'impression de connaître les instruments, de savoir.
Vous êtes intéressé à la composition contemporaine, parce que vous avez dit dans votre première partie,
à l'époque,
parcours,
ouais.
Non, est-ce que soudainement le fait de vous-même vous plonger, d'aller dans cette direction, vous avez été attiré, vous dire mais qu'est-ce qui se passe aussi également
À l'époque, non, au tout début, non, j'étais encore assez, c'était pas encore dans ma mire de vue. Donc je suis revenu à aux musiques turques, arabes, juive, musique africaine, musique, il y avait plein, tout ce qui passait en fait.
Ça se passait comment? Vous alliez acheter des disques, vous essayez voir des concerts, des partitions, enfin comment ça...
J'achetais des disques, j'allais au concert, voilà. Et en même temps, j'entendais des choses, c'est-à-dire, une des premières expériences, c'était Zarani qui est en fait un projet où j'ai senti le besoin de revenir à une mémoire collective. Donc j'ai travaillé sur les mouachars, donc cette forme arabo-andalouse, et avec des thèmes qu'on connaît. Par exemple, moi, je connaissais des thèmes par cœur, mais je ne savais même pas d'où est-ce que ça venait, pourquoi je connais telle mélodie. Est-ce qu'elle date de... Il y avait des choses, je croyais qu'elles dataient du XIIe siècle, par exemple, et en cherchant un peu... elle datait de 1950, donc il y a une espèce de mélange comme ça au niveau de la mémoire qui était assez intéressant, par rapport à cette mémoire collective. Donc je me suis dit, je vais repartir de là, et qu'est-ce que je peux construire avec ça aujourd'hui, moi, comment je peux réagir avec cette mémoire-là. Et donc c'était un premier travail qui était important pour moi. Et ensuite, je ne sais plus très très bien comment ça s'est passé. Il y a eu une rencontre quand même qui était très importante, parce que j'ai rencontré qui est maintenant un grand ami à moi, qui est Philippe Scholler, qui lui était en plein dans l'écriture dite contemporaine. Et on a beaucoup partagé de choses, et on a beaucoup parlé. Voilà, en fait, la musique dite contemporaine est venue aussi d'une manière un petit peu... Je ne me rappelle plus très bien, au fond. Mais ce dont je me rappelle, c'est qu'il y avait des moments où j'entendais intérieurement des gestes musicaux qui pouvaient durer 5 secondes. De facture plutôt contemporaine. Et je me disais, mais est-ce que ça a une existence réelle, ou est-ce que c'est juste la chimie du cerveau qui fait ça? Et je m'amusais à aller donc sur un synthé, de baisser le son du synthé, de choisir les sons et d'essayer de jouer en enregistrant les choses que j'entendais, mais sans mettre le son. Donc de mettre j'entendais une clarinette faire telle chose, une percussion faire telle chose, une trompette, etc. Et donc je construisais cette séquence de 4 secondes que j'entendais. Et une fois construite, je mettais le son pour entendre.
C'est l'expérience, un côté autodidacte de l'expérimentation.
Et là, en fait, ça correspondait. Donc je me suis dit, bon... il faut continuer c'est-à-dire faire confiance à ce que j'entendais intérieurement, parce que je ne savais pas si ça avait une réalité physique.
Il y a quelque chose aussi dans cette, je ne sais pas si on peut appeler deuxième vie musicale, c'est que dans la première, il y a quasiment de la musique instrumentale, quasiment, et dans la deuxième, l'instrument qui arrive, c'est la voix. Avec évidemment avec Zajal qui l'apothéose de tout ça. Comment est-ce que c'était aussi finalement la découverte, au-delà d'une nouvelle vie musicale, mais d'un instrument qui devient majeur dans votre œuvre? Comment c'est arrivé? C'est quelque chose finalement qui était en vous, pareil, caché dans la poche arrière et qui soudainement est sorti. Comment ça vous a fait repenser peut-être la musique, l'intervention comme ça de la voix dans votre pensée musicale?
Comme vous disiez tout à l'heure, le fait d'avoir à un moment donné ouvert tout ce théâtre, tout cet espace des différentes musiques, à un moment donné, on se dit, mais moi je suis où là-dedans? Et à un moment, il faut bien s'accrocher à quelque chose, sinon on explose dans l'espace, dans le temps. Et là, la première chose à laquelle j'ai senti qu'il fallait que je m'accroche, c'était ma mémoire ancienne. Mais comment s'y accrocher? Le sentiment que j'ai eu, c'était de en même temps de s'accrocher à quelque chose, mais en même temps de libérer, c'est-à-dire de s'ouvrir pour laisser les choses, pour se laisser pénétrer par les choses. Et petit à petit, des éléments ont commencé à apparaître, effectivement, la voix en premier. Et j'ai suivi ce chemin-là. Et ensuite, c'était la rencontre. Une rencontre très importante qui était avec Catherine Payon, des éditions du label Empreinte Digitale, et qui coïncidait avec une commande qui venait de Gand, d'un ensemble de Gand, qui m'ont commandé une œuvre chorale, donc pour 18 chanteurs. Et je me suis lancé, je ne savais même pas si j'allais pouvoir aller jusqu'au bout. J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai écrit cette pièce, et ça a été vraiment le début de ce travail-là. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Les Éléments, avec qui j'ai créé beaucoup d'œuvres vocales. Et bien sûr, Ars Nova, du côté instrumental. Donc après, les choses ont commencé à trouver un petit peu quelques chemins.
Thank you.
qu'est-ce que vous gardez, comment vous regardez, j'allais dire, cette première vie où vous étiez carrément en fusion avec un piano, avec un instrument qui était l'extension de votre corps quasiment. Vous avez passé, vous avez dit tout à l'heure, il y a des jours, jouer 10 heures par jour. Quand vous regardez ça rétrospectivement aujourd'hui, comment vous décririez le rapport que vous avez aujourd'hui avec cet instrument qui est votre instrument premier?
C'était peut-être un refuge parce que pendant les années de guerre, l'extérieur était plutôt violent. Et j'ai eu une adolescence qui était quand même assez cachée. On pouvait pas trop sortir. Et le piano devenait en fait un espace, un univers qui est resté un univers comme ça dans lequel je me réfugiais.
Il a la même valeur, vous pensez, aujourd'hui, d'après vous?
Ah non,
pour vous?
Absolument pas.
Parce qu'il y a un moment, justement, où vous avez réalisé ça et que ça ne devienne plus, justement, l'instrument lié à un moment de votre vie, à une douleur, à une souffrance.
Oui. À un moment, je l'ai haï. Je ne pouvais plus le voir. Je regardais chez moi mon quart de queue noir, j'avais l'impression d'avoir un cercueil. C'était terrible.
Qu'est-ce qui vous a fait revenir? Qu'est-ce qui vous a... Comment vous êtes retrouvé?
En fait, quand je me suis remis à écrire et à comprendre l'espace véritable dans lequel j'avais envie de vivre, en comprenant ça, en fait, quand on comprend ces espaces-là, qui sont des espaces où on est un peu plus en paix avec nous-mêmes, on arrive à accepter mieux les choses qui sont violentes autour. Donc, à un moment donné, je suis revenu vers le piano parce que il faut pas oublier que c'était quand même malgré tout un passage très important qui a duré peut-être 25 ans ou 30 ans. Mais peut-être que si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas pu accéder justement à l'espace que je cherchais. Donc c'est presque comme un chemin. Un chemin obligé, et c'est important, c'est important. Le piano a été important justement parce que j'ai pu un jour me débarrasser de quelque chose.
Quel type de compositeur vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez des phases de création? Est-ce que c'est intense? Ça bouillonne en permanence? Comment ça se passe aujourd'hui?
Oui, en fait c'est en permanence, mais j'écris pas en permanence. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement, mais tout le temps. Il y a tout le temps ça travaille tout le temps en fait. Et à un moment, quand j'ai quelque chose à écrire, je me débrouille pour retarder, un peu comme pour compresser l'énergie. Et à un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller et ça y va. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de toujours continu, puis une forme de soif de se nourrir de tout ce qui bouge en fait, de tout ce qui entoure et tout ce qui bouge.
Comment vous placez la question de comment la musique contemporaine est perçue aujourd'hui? Vous avez dit vous-même dans la première partie de votre carrière musicale, vous intéressez peu, vous aviez des idées un peu préconçues comme on peut avoir sur ce genre, si on peut appeler ça un genre. Vous êtes aujourd'hui un acteur de cette planète. Comment justement, par rapport au public, par rapport au cliché qu'il peut y avoir à ça, est-ce qu'il y a, vous sentez une mission? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse de voir comment c'est évolué, comment c'est perçu et parfois le ghetto dans lequel c'est mis, et sous étiquette musique contemporaine, finalement, il y a des tas de musiques complètement différentes.
Moi, j'ai la chance de ne pas faire partie de chapelles, parce qu'effectivement, vous parlez de ghetto, il y a des chapelles de musique contemporaine, on ne va pas les citer. Donc, comme j'ai eu un chemin plutôt... un peu solitaire là-dedans, puis assez autodidacte. J'ai pas cette problématique-là. Parfois, j'ai eu une problématique que je sois accepté par certains endroits. Mais je poursuis mon chemin.
Parce que ça peut poser des problèmes parfois, ne serait-ce que pour la musique vivante, c'est-à-dire pour des organisations de concerts. On sait que si on arrive et qu'on dit on va proposer un programme Chopin, ça passera peut-être plus facilement que si on propose une œuvre, une création.
Bien sûr, bien sûr. Okay. Bon, il y a des choses parfois, je trouve qu'il y a des concerts qui sont très intelligents quand on mélange, par exemple, on met une pièce de... Il y a eu une série à la Cité de la Musique avec Bach, Berio, et ça, c'était vraiment, je trouvais ça vraiment très passionnant parce que les gens viennent. Eh bien, il faut qu'ils viennent, qu'ils écoutent, qu'ils, qu'ils, qui voit qu'il y a autre chose aussi et que c'est ce que les compositeurs du XXe ont ouvert au niveau de l'écoute et de l'oreille. Et c'est absolument vertigineux, c'est absolument extraordinaire. Et c'est dommage de... En fait, tout nous pousse dans nos peurs, je pense. On est dans une époque où on nous pousse à l'endroit où on peut rester dans nos peurs. Et peut-être qu'il faut se battre pour ça, pour se libérer de ses peurs et de certains endormissements.
C'est quoi vos envies actuellement musicales? Est-ce que vous avez 150 000 idées en tête? Vous avez des envies que ça soit au disque ou à la scène? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses où finalement vous avancez progressivement, étape par étape?
Non, en fait, je fonctionne par... Il y a des flashs parfois. Tout à coup, il y a un projet qui arrive, mais qui... Ça y est, il est dans sa forme. Ça peut venir extrêmement vite avec sa forme et sa... Et ensuite, il faut attendre qu'il mûrisse, et puis le moment où il y a l'opportunité et la chance de pouvoir le faire. Donc en fait, il y a énormément de projets en cours, même sur les années à venir.
Vous nous parlez de trois flashs, alors justement, que le public pourra...
En fait, là, aujourd'hui, je travaille surtout sur une création qui va avoir lieu le 23 septembre, qui est une commande du Festival d'Ambronay. Et justement, ça c'est avec des instruments baroques, donc avec l'ensemble Concerto Suave. Une chanteuse absolument extraordinaire que j'adore, qui est Maria Christine Akir, et le chœur des éléments. Et ça va être créé le 23 septembre prochain. Ça, c'est un des projets importants. Il y a un concerto pour canon et orchestre aussi qui est en route. Il n'y a pas de date encore pour celui-là. Et puis, il y a plusieurs choses. Ça ne me vient pas à l'esprit. Je suis invité cette année au Festival d'Aix en tant que compositeur pour l'Académie de chant. Festival d'Aix. Donc, il y a plusieurs pièces que je dois écrire pour... Pour les chanteurs. Voilà.
Quand il vous reste un peu de temps dans tous ces projets, quel mélomane vous êtes? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? Est-ce que vous achetez des disques? Vous téléchargez? Vous allez au concert? Est-ce que...
Alors, je vais au concert, oui, autant que possible.
Qu'est-ce que vous allez entendre au concert, par exemple? Les quelques derniers concerts qui vous ont... marqué ou déçu, je ne sais pas, récemment qui...
Le dernier, c'était il y a quelques jours, c'était Présence, Salonen. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en avait un aussi. Oui, création de... Je suis un peu les amis aussi. j'ai été écouter la création de Marquias, du concerto pour piano. Et j'ai raté malheureusement le Requiem de Ligeti, qui est le plus grand chef-d'œuvre. Malheureusement, j'ai raté. Mais bon, je vais quand même beaucoup, surtout, écouter des concerts de musique contemporaine, parce que aujourd'hui, c'est ce qui me nourrit le plus. J'ai besoin de cette nourriture-là, d'être proche de la pensée, de tout ça, de cet imaginaire.
Ça peut être des musiques autres qui peuvent vous nourrir
si...
Vous avez dit tout à l'heure, par exemple, quand vous êtes ouvert, vous avez mangé, enfin vos oreilles ont mangé des sonorités, elles n'ont pu finir, de tous horizons. Est-ce que...
Oui, ça, en fait, effectivement, je peux aller, par exemple, écouter du zajal traditionnel ou des... mais surtout pour le concert, en fait, aujourd'hui, j'ai besoin de voir les instruments, en fait, d'apprendre. C'est pour ça que j'aime bien aller dans les concerts de musique contemporaine, parce que j'apprends beaucoup déjà pour moi, pour l'écriture et pour...
C'est impossible d'être un mélomane neutre quand on est, j'allais dire, compositeur.
Ça serait bien parfois, ça me dérange un peu. Ouais. Parfois j'ai envie de pouvoir fermer les yeux et puis bon, je le fais bien sûr, mais on est tout le temps, enfin je suis tout le temps l'impression de vouloir absolument capter des choses et comprendre et apprendre.
On va vous laisser apprendre tranquillement. Donc, je rappelle que Zajal donc, est sorti sur le label L'Empreinte Digitale. Merci Zad Moultaka.
Merci à vous.
نديار الشحروري من أنماشا أصل النسب فغالي من بيت بوصا والجمراي مضوي وخسوف وصا أصل النسبة فغالي من بيت بوصاب نتيار الشحروري من أنما شعب أصل النسبة فغالي من بيت بوصاب نتيار الشحروري من أنما شعب طلع بتشاهد بي خليل سمعان طلع بتشاهد بي خليل سمعان طلع بتشاهد بي خليل سمعان
Rencontre par Marc Zisman.